RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de GG. Parfois c'est de la thérapie les GG, vous savez ça fait du bien, on s'engueule, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on débat pendant 3 heures et c'est comme si on faisait de l'exercice physique. Les grandes gueules c'est en dire...
Ça se voit d'ailleurs.
Ah bah attends, on est tous, on est occupés. Allez, dans les GG aujourd'hui, Étienne Liebig, éducateur, anthropologue en Seine-Saint-Denis. Bonjour Étienne.
Bonjour à tous.
Mehdi Guézard qui est chef d'entreprise, bonjour mon cher Mehdi. Mehdi.
Bonjour à tous.
Joël Dagosseri, coach de vie. Bonjour Joël.
Bonjour à tous.
Et le plaisir de retrouver le docteur Ludovic Taureau, médecin généraliste et maire de Coubron en Seine-Saint-Denis. Bonjour Ludovic.
Bonjour les grandes gueules.
Alors je vous donne le programme des GG aujourd'hui. On va voir un GG 7 et match tout à l'heure sur l'installation des médecins. On voit encore là avec l'été le problème des médecins à la campagne, dans les territoires ruraux, 2 mois, 3 mois d'attente, de rendez-vous parfois. Quand il faut aller voir un médecin très rapidement, ben on ne peut pas, on doit faire 40, 50, 70 kilomètres. Donc est-ce qu'on doit forcer les médecins à s'installer à la campagne? On en parlera à 11h, une équipe oui, une équipe non. À 10h, Gérald Darmanin annonce pour la rentrée prochaine un grand débat sur l'immigration et sans tabou, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est utile ce grand débat sur l'immigration? Est-ce que c'est démago? 32-16 pour en parler avec les juges, avec les grandes gueules. Mais on va parler de notre quotidien, il est rythmé par... les vagues de chaleur. Alors là, le pic, nous dit-on, est passé. Enfin, il va faire encore 38-39 hein, aujourd'hui à Lyon. Et les organismes sont fatigués. Et la semaine prochaine, ça va remonter encore au-dessus des 35 degrés. Est-ce que vous arrivez à vous y habituer ou est-ce que vous souffrez? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
Franchement, c'est horrible, surtout avec des enfants, c'est dur. Ben, la chaleur, de sortir, aller faire les courses, aller au rendez-vous, c'est invivable.
Je ne vous raconte pas, hein, c'est vraiment, vraiment, c'est dur à supporter. Hein. On mange pas beaucoup, on boit beaucoup, je me languis l'hiver.
On commence à être fatigué, oui, parce que le trajet des bus, métro, et en plus on rentre à la maison, on trouve comme un four, mais c'est trop.
C'est insupportable. Surtout pour les personnes âgées, comme moi. C'est vraiment la souffrance.
Voilà, en souffrance, surtout pour les personnes âgées. Je vous le disais, hein, 26 départements restent en vigilance orange canicule. On va avoir 36 degrés à Strasbourg aujourd'hui. On va avoir 38 à Lyon. Ça va revenir la semaine prochaine. Et on s'installe en fait dans une espèce de fatalité, de se dire, tu sais, on fait avec. Et puis on entend aussi dire, bah, de toutes les manières, c'est l'été, donc il faut s'habituer à avoir des pics. Sauf que ça a des incidences en plus sur le corps. Mais, et ce, quels que soient les âges, parce que supporter nous dans les climats tempérés, notre métabolisme, il n'est pas forcément habitué à ça. Alors, est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous arrivez à vous y habituer? Est-ce que vous dites maintenant, ça y est, c'est bon, on va faire avec? 32-16 pour en parler avec les juges. Tiens, je me tourne tout de suite vers le docteur. Mmh. C'est fatigant pour les organismes là, en ce moment.
Ah, c'est hyper fatigant, surtout que les variations sont brutales. C'est ça le problème. On n'a pas le temps de s'habituer même sur une semaine sur l'autre, mais encore moins d'une année sur l'autre, d'accord? Donc en fait, les variations ont été beaucoup trop brutales et le corps n'a pas le temps de s'habituer. Mmh. Sur 10 ans, 20 ans, on peut s'habituer. Bien sûr, le corps va se modifier, notre corps va prendre le dessus. Mais là, c'est impossible, c'est trop rapide. En plus, voilà, côté eau, je parle surtout pour les personnes âgées qui perdent en fait la sensation de soif. En vieillissant, vous avez ces cellules qui vous disent qu'il faut voir qu'il n'y a pas. Donc la population âgée et bien sûr les enfants sont ciblés par cette augmentation de température. Sans parler de l'effet.
Mais on se dit qu'il faut s'y habituer.
Bah, non seulement il faut s'habituer, mais il faudra faire comme dans les pays du sud d'Italie et d'Espagne, c'est-à-dire travailler différemment. C'est-à-dire qu'il faudra se dire qu'on commence à bosser à 7h du mat et finir à 14h et reprendre à 18h.
Non, mais on va pas. On va
sinon,
pas
il y aura les accidents de travail. Parce que les gens qui feront des malaises sur le lieu de travail avec 35 ou 40 degrés, c'est des accidents de travail. Il faut modifier le système de vie. Mais le problème, je vais vous le dire, c'est que dès que septembre-octobre va arriver, c'est qu'on aura oublié tout ça, d'accord? Et on va attendre l'année prochaine. C'est chaque année la même chose. C'est-à-dire quand il y a un problème en France, On va attendre qu'il serait de vol tout seul.
Oui, mais c'est parce que c'est, oui, d'accord, mais c'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui au gouvernement. On nous dit pas, si tu veux, d'une manière générale, il va falloir qu'on modifie notre mode de vie. On cherche des solutions pour s'adapter. Mais moi, j'entends pas dire aux Français d'une manière. J'entends baisser la clim, faites attention. On va peut-être modifier les constructions, mais j'entends pas. Il faut qu'on modifie globalement notre mode de vie.
C'est exactement comme le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on nous dit quelque chose maintenant, après on le fait plus. Il y a pas de vrai programme. Est-ce que vous avez vu un programme sortir du ministère de la Santé pour nous dire voilà ce qu'on va commencer à faire dès aujourd'hui et comment y arriver? Je suis désolé. C'est toujours au coup par coup sans aucune anticipation efficace. Et dans le domaine médical, ça va piquer les yeux.
Joël Dagosséry.
Je pense exactement ce comme vient dire Ludovic sur le mode de vie. Je crois qu'on sous-estime vraiment le mode de vie des Méditerranéens, enfin en tout cas du sud de la Méditerranée, parce qu'on se demande souvent qu'est-ce qu'on doit faire, mais on se demande pas qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire, en fait, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire. Et je crois que vraiment dans ces périodes-là, il faut que ce soit entré dans les mentalités, que le rythme de vie doit changer. Et les enfants, moi je vois par exemple hier, j'avais ma fille et mon neveu, je leur disais, bon, est-ce que vous voulez sortir un peu? Ils voulaient absolument pas sortir. Ils étaient contre tout. Ouais, non, mais ils m'ont dit, on veut pas sortir, on veut pas transpirer. Ils ont très bien compris.
Ça, c'est les gens d'Aubervilliers.
En période de chaleur, ils sont pas à se demander, tiens, on va aller crapahuter, on va. Ils ont compris ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Pour rester tranquillement à l'ombre, à la maison, on bouge pas. Bah, donc, je crois que, en fait, c'est quelque chose de.
Tu viens de provoquer Aubervilliers, mais t'as totalement raison. Moi, je suis de Seine-Saint-Denis. Comme c'est hyper dense, il fait encore plus chaud. Oui. Avec la problématique aussi, on pourra pas continuer à construire des 5, 6, 7 étages.
Surtout, sinon, il faudra mettre partout arrêter de détruire et
les arbres.
Et tu dois être concerné comme les copains.
Non, attends.
Tout l'habitat pavillonnaire.
Non, blague.
Là, tu peux en témoigner. Chez moi, à Noisy-le-Sec, le truc, c'est, on est une ville de pavillons. Que des pavillons et avec des cités. C'est détruire systématiquement tous les pavillons pour construire des 5, 6 étages. Ouais. Totalement bétonnés. Et donc, là où il y avait de l'herbe et où il y avait des arbres, c'est niet. Il n'y a plus rien. Toulouse, j'ai le copain de Toulouse, et c'est exactement la même chose. On détruit tout ce qui est habitat pavillonnaire et on construit du petit bâtiment sympa, hein, de la petite résidence très chouette, très chère et très jolie.
Mais c'est parce que c'est ta réponse aussi. Ça répond à une demande de logement aussi.
Le fait de peindre en blanc, le fait de, par exemple, la première chose que tu vois quand tu vas en Grèce, première chose que tu vois quand tu vas en Italie du Sud, tu vas à Chile, là, dans la Calabre, là, tout est blanc. Tout est blanc.
Avec des petits volets.
Avec des petites
fenêtres.
Et tout est peint en blanc. Ici, on continue de faire tout en noir. Donc, effectivement, l'absorption de la lumière et l'absorption de la chaleur est terrible. La première chose à faire, c'est d'arrêter de faire du noir. Tout le monde le sait qu'il faut tout peindre en blanc. Faut que les maisons renvoient la lumière. Et il va falloir changer nos modes de construction. Il va falloir tout faire évoluer. Ça va être une révolution de façon de vivre. Et pour te répondre, pourquoi les...
Oui, non, mais attends, puisque tu dis, ça va être une révolution, justement, si on veut s'habituer à cette chaleur. Mais en même temps, tout le monde veut aujourd'hui habiter en ville. Donc, il faut faire des immeubles. Et il y a de plus en plus de surfaces vitrées. Regarde aussi les immeubles de bureaux. Alors, faut trouver une autre manière de
construire. Vous savez pourquoi tout le monde veut vivre en ville? Parce qu'il n'y a pas de transport en commun.
Bah oui.
Le jour, comme dans les autres capitales, on aura des grands transports pour un quart d'heure.
Parce qu'il y a du taf.
Attends, mais il y a du taf. Tu peux prendre aussi un quart d'heure. Mais ce que je veux dire par rapport à ce que tu dis, il y a une loi SRU sur les logements sociaux. Est-ce qu'on pourrait avoir une loi SRU sur les pavillons aussi?
Hein, tu parles.
Parce qu'il y a des villes aujourd'hui, il n'y a plus de pavillons et en effet, on essaie de tout détruire.
Si je suis votre raisonnement, vu la chaleur, la concentration, les concentrations de chaleur qu'on va avoir avec des villes où on a des constructions hautes, des bitumes bien noirs qui renvoient toute la chaleur, etc.
Imperméable.
Non, mais il faut sortir des villes. D'accord, mais alors ça, il faudrait. Ça, c'est de la volonté politique.
Bien sûr.
De dire, il faut sortir des villes, il faut retourner dans les territoires, aller vers des logements plus petits.
C'est l'occasion ou jamais.
C'est aller dans les territoires.
C'est l'occasion de faire cette révolution incroyable, de réhabiter notre pays entièrement, de décentraliser, de donner des chances exceptionnelles aux régions. C'est l'occasion qui nous est donnée par le climat de tout changer et mais il va falloir un courage politique incroyable, puis se heurter à tous ces gens qui disent, mais non, il se passe rien. J'ai connu ça en 1927. Il faisait encore plus chaud.
Et là, on entend dire, moi, j'ai connu ça en 1976.
C'est l'été.
J'ai connu ça en 2003.
Ça s'appelle l'été.
Mais écoute, alors, te dire un truc. Ma mère, que je salue, je vais dire son âge, qui est de 1936, désolé maman, me dit, bah, qui est niçoise, elle te dit, bah oui, bah, les étés où il fait chaud, on en, merci, on connaît, sur la Côte d'Azur. Oui, enfin, donc, il n'y a rien d'exceptionnel.
Il n'empêche que sur la Côte d'Azur, tout le monde allait s'installer et toutes les personnes âgées allaient s'installer. Aujourd'hui, elles se tirent et elles vont en Bretagne. Parce que c'est plus vivable.
Oui, sauf qu'en Bretagne, maintenant aussi, ça commence
à l'école. C'est pas que les étés soient chauds. C'est tout ce qui va avec, c'est les restrictions d'eau. Parce qu'il y a les étés qui étaient chauds, ok, mais maintenant, on a aussi des restrictions d'eau. On nous dit, oui, il ne faut pas consommer autant d'eau. Et je sais que dans le sud, c'est vraiment très encadré.
Pays de faïence, dans le Var, la Corse, effectivement, il y a
des restrictions d'eau. On n'a plus d'eau dans 25 jours.
Donc, il n'y a pas qu'il fait très chaud. Il y a aussi, on ne peut plus aussi se laver comme on voulait, boire comme on veut, arroser comme on veut. Il y a beaucoup de choses qui vont avec.
Tu lavais ma bagnole. Mais mon 4x4. Je ne peux plus laver mon
4x4. Ton terrain de golf.
Je suis emmerdé.
Mehdi Ghezard.
Tant mieux, il est en vélo. Non, moi, hier, par exemple, c'est un exemple concret. Hier, j'étais avec mes parents qui ont 80 et 70 ans. C'était pas facile pour eux. C'était vraiment pas facile pour eux. Mmh. Et c'était.
Pourtant, ils sont habitués au sud. Ils sont habitués à la chaleur.
Voilà, ils sont habitués au sud. Mais en plus, Paris, c'est encore plus étouffant.
Ouais, c'est
Paris, vrai. Ça étouffe parce qu'il y a une sorte de conjugaison entre la chaleur et la pollution qui font quelque chose qui est assez terrible. Et hier, et c'est un cas concret, ils arrivaient, ils avaient du mal à respirer. Ils avaient vraiment du mal à respirer. Et nous, on est dans une tranche d'âge quand même assez jeune où voilà, on peut encore supporter, on peut encore faire des efforts, mais des gens comme ça d'un certain âge, c'est très très difficile. Donc quand Joël me dit mon neveu ou ma nièce ne veulent pas sortir comme moi, mon fils qui a 7 ans, qui me dit non, moi je suis bien à la maison, il y a la clim
à la maison.
Ouais, bah bien sûr. Et oui, mais après c'est un choix de vie, après voilà. Mais c'est quelque chose, quand on est jeune, on leur donne déjà cette facilité à choisir, nous quand on était jeunes, je me rappelle, moi je me baladais dehors et c'est vrai qu'il faisait chaud, il y avait des fortes chaleurs et on allait quand même jouer sur le terrain de foot et on se prenait une bouteille d'eau et on s'aspergeait d'eau, on se faisait des batailles d'eau. Moi maintenant, j'en vois pas beaucoup.
La police intervient.
Maintenant j'en vois pas beaucoup des batailles d'eau dans les centres.
Tu finis en centre, tu finis en garde à vue,
dans les trucs comme ça. Donc il y a vraiment une mentalité qui a changé. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les personnes âgées, c'est ça. Ma hantise, c'est que nous on se plaigne, je trouve même que c'est un peu trop réducteur. On n'a pas. Je pense qu'il y a encore les moyens de mais personnes âgées ou les personnes malades ou les personnes, vraiment pour eux. C'est vraiment pour eux qui sont vraiment.
Pour mal au cœur. Je suis asthmatique. Voilà, et j'ai un asthme qui est assez régulé maintenant avec le temps. Honnêtement, je fais plus de grosses crises, excepté quand il y a vraiment des grosses chaleurs à Paris, plus la pollution. Là, je suis en alerte. Voilà, je me lave avec ma ventoline, etc. Je suis en alerte rouge.
Oui, carrément.
Oui, parce que là, vraiment,
les asthmatiques,
ouais,
c'est
pas
souffrir.
Donc, il y a un impact au quotidien sur la santé.
Mais tu sais, on est très inégaux par rapport à ça aussi. Je sais pas. Le docteur nous le dira peut-être, mais je trouve qu'individuellement, on est très inégaux. Moi, par exemple, je ne souffre pas de la chaleur. J'ai travaillé, là, j'étais en vacances, donc j'ai fait du chantier chez moi. Dans le soleil, avec ma casquette, j'ai fait du terrassement, j'ai pas souffert de la chaleur.
Oui, mais.
Et par contre, mon épouse alors je sais pas si c'est parce qu'elle est bourguignonne, et que c'est dur parce qu'elle a toujours vécu dans un endroit assez frais, mais c'est une horreur.
C'était dans la cave des parents, qu'elle a fermé
toute sa jeunesse dans la cave des enfants.
Le soleil et la fraîcheur.
Déjà qu'il n'y a pas de soleil là-bas, mais en plus.
Bah oui.
Voilà. Je supporte très bien les -2, -3. Mais oui, donc on est très inégaux, tu vois. On n'est pas.
Mais on a un capital génétique où si on court tous les deux, moi je vais être trempé, toi tu vas être sec.
C'est ça.
Donc ça, voilà, comme quand on mange, on grossit ou grossit pas sur la même quantité, chacun.
On abordera cette question
ultérieurement. Mais ce que je voulais dire, vous avez raison sur.
Ce que dit Mehdi sur les personnes âgées.
Respiratoire et cardiologique. Ça, tous ces deux organes qui seront le plus touchés, sans parler des reins si on ne boit pas. Les personnes âgées ont ces pathologies, d'accord? Elles ne font que s'accentuer. Mais moi, je pense à tous ces gens qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent, qu'il n'y a pas d'air conditionné. Il y en a que seulement en réa. Hein. Tous les hôpitaux qui sont pleins, ils suent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'accord?
Sure.
Mais dans une société où ces gens-là vont être à 40 degrés, viennent d'être opérés, ils se font un diabète et tout ça. Je veux dire, ça va tout changer dans notre société. Soit on s'occupe des gens fragiles. Mais on le fait rapidement. Et on l'a pas fait sur la pollution. On est tous d'accord. Mais il faudra peut-être le faire sur la chaleur. Parce que 1+1, ça va faire très mal.
Ça veut dire quoi, s'occuper des gens fragiles?
Les gens fragiles, faut le faire.
C'est d'abord, c'est aux familles, quand même, de s'en occuper.
Ah, mais je dis pas le contraire.
Et après, pour ceux qui sont isolés ou
Oui, mais il y en a beaucoup.
Ou seuls, il y a des
La cellule familiale, a tendance à exploser aujourd'hui.
On est d'accord.
Plein de raisons. Et en fait, souvent dans les villes, il y a des gens qui sont isolés. Alors nous, les maires, on fait tout ce qu'on peut pour les aider, d'accord. Mais ça va pas suffire parce qu'on pourra pas leur mettre d'air conditionné. On n'aura pas assez de personnel pour aller les voir tous les jours. Donc c'est toute la société qu'il faut revoir. Et je pense que comme vous disiez, faut voir ce qu'ils font dans le sud depuis des années et l'appliquer à notre société, à la France.
Il faut pas donner des faux messages parce que tu te rappelles le terrible message buvez, 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 buvez. Et il y a des gens qui ont trop bu parce que en fait, même si le système de régulation de l'appétence à l'eau à un moment déconne, mais c'est quand même assez tard, hein, d'après ce que j'ai vu. Il faut faire attention de pas non plus se contraindre à boire trop parce que c'est pas non plus très bon. Faut pas lancer un message dans l'absolu.
Mais Ludovic a dit une chose. Il a dit là, on subit. Mais à la rentrée, là, en septembre, on sera passé à autre chose.
C'est toujours sauf si les députés écologistes.
Vous ne croyez pas là depuis ces. Alors, même si je crois que c'était l'année dernière, on a eu un été mouillé, si je me souviens bien, l'année dernière. D'ailleurs, on était.
Il n'était pas chaud du tout.
Voilà. Donc, vous ne croyez pas quand même que justement ces dérèglements comme ça à répétition, avec à passer d'un été l'année dernière, tu vois, où on a eu de la pluie, et puis à un mois de juin, juillet, où on est déjà en pleine canicule. On
se dit ça y est, c'est bon, j'ai compris. Qu'il ne faut pas regarder la France, il faut regarder ça au niveau mondial, il faut regarder le réchauffement tel qu'il s'opère sur le plan mondial, sur le plan de la planète, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, même si l'année prochaine, il se trouve qu'on a un été très agréable, où il va y avoir beaucoup d'eau, c'est pas ça, les gens nous prévenaient, enfin moi j'ai un ami qui est terrassier, il m'écoute certainement, et on le connaît d'ailleurs, Fabrice, il me prévenait au mois de février, il me disait, tu sais, ça va être un drame cet été, lui il creuse, hein. Il m'a dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau, en février il n'y a plus d'eau. Tu vas voir cet été, en ce moment on est en train de parler de tas de conneries, mais tu vas voir le truc terrible. Et là j'entends que dans 25 jours, il n'y a plus de flotte en Corse. En Haute-Corse, il n'y a plus de flotte. C'est gravissime, gravissime pour les populations. C'est-à-dire qu'il va falloir un plan hors sec. Il va falloir un plan...
Et le gouvernement n'a pas pris la mesure, là ?
Je pense, tu vois, qu'on a une espèce d'aveuglement parce qu'il n'y a pas une unanimité sur le truc. Il y a toujours des gens... Aujourd'hui, tu vois bien qu'il y a des gens qui doutent. Je lisais encore. Oui, d'accord, je ne nie pas le réchauffement, mais la part humaine, ça, on n'en est pas sûr. D'ailleurs, c'est un peu comme le vaccin contre le Covid. Et j'ai lu une étude guatémaltèque qui dit que l'homme n'a aucune influence sur, tu vois, je pense que, à un moment, il faut qu'il y ait l'unanimité, que les politiques, députés, alors, la gauche, je pense, est déjà acquise, mais que les députés de droite, à un moment, arrêtent de jouer l'opposition systématique en disant, c'est un truc de bobo. Parisiens, nous dans les territoires, on sait que c'est normal de crever de chaud. Arrêtez ce cinéma. Faisons à notre niveau tout ce qui permet de dire que la gauche est acquise.
La gauche n'est acquise à rien du tout, d'accord. On l'a bien vu.
C'est-à-dire fais pas de politique.
Non, mais tu viens de me le dire. La gauche est acquise.
Bah oui.
La gauche est acquise à rien du tout. Elle a été au pouvoir. Elle a rien fait. Arrêtons. Personne n'est acquis parce que la politique vit au moment présent et a peut-être un tout petit peu à moyen cours, mais jamais au long cours. C'est-à-dire, le problème de la politique, c'est des mandats. Et les mandats, ils sont à 5 ans. Sauf que révolutionner une chose, c'est pas 5 ans.
Ah ben on va continuer d'en discuter. Pour les médecins tout à l'heure. Dans un instant, avec Sonia, elle nous appelle du Haut-Rhin, justement, où on va encore dépasser les 35-38 degrés aujourd'hui. Ça devient terrible. Et en plus, Sonia, vous savez où elle travaille ? À l'hôpital. Et elle dit, et vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe à l'hôpital, la chaleur à l'hôpital.
Ton ventilo pour ta mère,
ces pics de chaleur, est-ce qu'on doit s'y habituer ? Est-ce que vous arrivez à vous y habituer ? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Ludovic Toro, maire de Coubron en Seine-Saint-Denis et médecin généraliste Joël Dagosseri, la coach de vie Mehdi Guézard, chef d'entreprise à Paris, Étienne Lébig, éducateur en Seine-Saint-Denis.
On n'en peut plus d'Étienne Lébig, on n'en peut plus.
C'est la personne
la plus haïe
de France.
Peuple français, aidez-moi, je n'en peux plus d'Étienne Lébig. Je vous en supplie, peuple français. Venez à mon secours. Je suis au studio d'RMC, je n'en peux plus.
Sonia est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour, bienvenue Sonia, parce qu'on parle justement de cette chaleur qui s'installe. Alors vous êtes dans le Haut-Rhin, vous allez y avoir droit encore aujourd'hui, un 35-38.
Oui, jusqu'à 38, ouais. En plus à Colmar, il fait assez chaud en général.
Et la nuit, ça va ? Comment ça se passe ?
La nuit, on plafonne quand même à des 22-23 degrés là encore.
Donc ça va.
Ouais, bon, il y a de l'air, on va dire, un petit peu, mais il fait quand même assez chaud.
Bon, et vous arrivez à vous y adapter au quotidien ? Vous faites avec ? Comment ça se passe ? Dites-moi.
Alors, on fait avec dans la mesure où, heureusement que ça ne dure pas sur plusieurs jours. ça dure 2, 3, 4 jours, allez, on va dire. Mais après, si ça durait plusieurs semaines, ça serait compliqué. Après, c'est dur à l'hôpital parce que on a des tenues qui sont hyper chaudes. On n'a pas des tenues professionnelles assez légères, on va dire. Ouais, le masque, ça c'est horrible. Alors, on avoue qu'entre nous, quand on est juste entre nous, entre les collègues, on le descend parce que c'est pas possible. C'est pas possible de le garder toute la journée pendant les 8 heures.
Bah, vous avez la clim à l'hôpital.
Eh ben non, justement, il n'y a pas la clim à l'hôpital. Eh non.
Attendez. Comment ça, il n'y a pas la clim à l'hôpital?
Non.
C'est une question sanitaire d'avoir la clim à l'hôpital.
Eh ben non, en fait, pas dans tous les services. Il y a effectivement la clim, mais que dans les services de réa, les services, dans les services de bloc, les services de salle de réveil, mais pas dans les autres services, quoi. Enfin, pas dans le reste de l'hôpital, on va dire.
Oui, bien sûr. Ouais. Ah mais c'est insupportable alors au quotidien.
Eh ben ouais, parce qu'on a des ventilateurs. Bah alors bien sûr on les a pas en nombre, hein, donc déjà. Et en plus depuis Covid, on ne peut plus mettre de ventilateurs dans les chambres où il y a 2 patients. Par rapport à l'aérosolisation, par rapport à la, enfin voilà, par rapport à tout ça quoi, à brasser les microbes, brasser les bactéries, enfin voilà.
Donc depuis, parce que les chaleurs les assez fortes sont arrivées dès le mois de juin.
Ouais.
Ça veut dire que depuis dès le mois de juin, votre quotidien, enfin, je vais employer le mot, Sonia, il est insupportable en fait au travail.
C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Il fait très très chaud dans les services. On essaye d'aérer dès le matin et de refermer très très tôt, donc vers 10h, 10h30, on referme déjà les fenêtres, les volets, enfin voilà. On essaye de laisser les portes des patients ouvertes des chambres pour qu'au moins ils aient un peu d'air du couloir, quoi. Mais c'est hyper compliqué. Pour eux surtout, pour nous, effectivement, on en souffre, mais alors les patients, ils en souffrent aussi. Hein.
Oui, mais alors,
chaleur, maladie, ça doit être terrible quand même. Être malade et en plus avoir chaud à l'intérieur de son lit d'hôpital, tu peux pas bouger, ça doit être quelque chose d'assez
Et en même horrible. temps, il faut savoir que la climatisation, même moderne, même telle qu'elle est développée aujourd'hui, c'est pas non plus... sur le plan santé, quelque chose d'extraordinaire.
Mais c'est quand même plus agréable.
À l'hôpital Pompidou, les problèmes qui étaient intervenus au début, c'était dû aussi à la climatisation, avec des bactéries et des salmonelles. Dans les hôtels, il y a eu beaucoup de cas de salmonelles par la climatisation. On est dans un pays tempéré. Normalement, on l'apprend encore dans les livres de géographie aux enfants, qu'on est dans un pays tempéré. On a tout fait pour, comme dans un pays tempéré, c'est-à-dire qu'il n'était pas prévu, il était prévu qu'il fasse 3-4
jours.
Il y a un moment, il faut adapter. Tu vois ce que Étienne dit. Moi, je trouve que c'est symptomatique aussi de l'état d'esprit de la France qui est anti-clim, mais moi, je trouve des fois dans des proportions qui sont complètement hallucinantes et complètement inefficaces. Enfin, par exemple, tu vois les transports. Ça fait des années maintenant qu'on a très très chaud dans les transports, dans les RER, etc. C'est invivable. Et pourtant, on nous encourage à prendre les transports parce que c'est beaucoup plus écologique. Mmh. Mais tu sais ce qui se passe, notamment pour les Parisiens ou ceux qui sont très proches en banlieue. Eh ben, l'été, ils se disent, moi, c'est terminé. Moi, par exemple, mon compagnon, il a dit, c'est terminé, c'est le dernier été à Paris, sans voiture, alors qu'il est vraiment anti-voiture, il est tranquille à Paris sans sa voiture, et il a dit terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, pas de clim, tu souffres dans les transports, t'as des malaises, t'as des gens qui font des malaises. Enfin, il y a un moment où ce truc anti-clim, il faut que ça s'arrête aux portes de l'hôpital, aux portes des transports, parce que justement, c'est pour
Mais il y a la raison écologique.
Les gens veulent prendre leur bagnole et être tout seuls dans leur bagnole avec leur clim tranquille au lieu de transpirer, suer et faire des malaises.
Dans les transports, par exemple, tu vas à Shanghai où tout est climatisé.
Mais c'est logique.
La France, c'est vrai que là-dessus, c'est un pays, mais parce que, je le répète, peut-être qu'il va falloir y arriver. En dehors de tout anti-clim, il se trouve qu'on n'a pas prévu que la France deviendrait un pays chaud. C'est marqué nulle part que la France est un pays chaud.
Ça fait 10... Attendez.
Merci Sonia et bon courage à vous. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait 10-15 ans que ça se réchauffe et qu'on le dit. Attends, je sais pas si tu te rappelles quand on était plus jeune, il y avait la neige en hiver. Tu vois de la neige encore? Excuse-moi de te dire ça. Le truc. Maintenant, attendez, je vais te dire une chose. C'est que si, bien sûr. Tous les juillet et août, il fait très chaud, d'accord? Et les pauvres malades, ils en souffrent. Tu me dis les problèmes de clim. Pourquoi certains services
aurait de la clim et pas d'eau dans les hôpitaux. La raison, elle est simple, c'est que l'hôpital est à bas, c'est qu'il n'y a plus de moyens à l'hôpital et que l'hôpital se casse la figure.
Ça coûte très cher.
Mais la santé, on en parlera. Faut pas mettre le mot euro à côté de la santé. On peut pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Non, je suis pas d'accord.
Est-ce qu'il faut climatiser les hôpitaux
mais
aujourd'hui
bien sûr
pour le confort de ceux.
Je sais pas si vous vous rendez compte. Demain, vous vous cassez la jambe, je vous le souhaite pas, et vous arrivez, il fait 35 degrés dans votre chambre. Vous avez mal, vous transpirez. Excusez-moi, la moindre des choses. D'autres pathologies, cancéreuses, diabéto, c'est pas humain. Il faut traiter humainement les gens, surtout quand ils sont en souffrance et à l'hôpital. Et rien n'est fait. Rien n'est fait. Alors on se dit, ouais, la clim, c'est pas bon, comme vous disiez, mais excusez-moi, la clim, c'est l'électricité. Si on met 2-3 centrales, voilà, on en parlera peut-être sur la centrale nucléaire.
Parce que l'eau est trop chaude. Hein.
Mais tu as raison. Et c'est une problématique qui va arriver. Et ça, on commence à réfléchir un tout petit peu. Mais excusez-moi, les gens qui sont malades doivent pas souffrir. On ne doit pas leur rajouter ça. Et là, on nous met un ventilateur en plus, comme tu disais, que tu amènes toi-même. Ouais, c'est une blague ou quoi? Mettre un ventilateur, ça coûte très cher. Non, on devrait en mettre dans chaque chambre. Je suis désolé, et pas demander aux gens.
Non, mais après, faut pas s'étonner comme Sonia, si tu veux, que finalement tu te barres de l'hôpital. Parce que si quand en plus arrivent les quand t'arrives les grands, t'es mal payé. En plus, tu crèves de chaud par 35, 38 ou même 40. T'es pas dans un confort de travail idéal, optimal pour pouvoir t'occuper des patients.
Tu vas dans des cliniques privées. Après, c'est pour ça qu'ils vont dans des cliniques privées. Ils vont bosser dans des cliniques privées qui sont climatisées, qui
se mettent à l'aise.
Et il faut comprendre ces gens-là. Je suis désolé. Il faut les comprendre. Quand t'as des aides-soignants qui quittent leur boulot dans le public pour aller dans le privé, c'est parce qu'il y a des raisons évidente. Quand tu as des patients qui quittent, qui ont les moyens de quitter les hôpitaux publics pour aller dans des cliniques privées ou des hôpitaux privés,
c'est
un confort. Tu es malade, tu as besoin d'un certain.
Quand tu es vraiment malade, tu vas dans les hôpitaux.
Ça dépend quel hôpital.
Étienne, on est en train de dire
des gens qui ont.
Excuse-moi, Étienne.
Tu vas à Necker, il ne va pas dans une clinique privée quand
tu es
malade.
C'est pas
une question de pognon, c'est une question de qualité de soins.
J'ai bien précisé, Étienne, les gens qui ont les moyens. D'accord, c'est pas tout le monde, c'est pas toute la population, mais que ça soit dans un point de vue professionnel, là je parle des aides-soignants qui sont en train de souffrir, manque de moyens, manque de personnel, il fait chaud quand ils vont au travail, hein, ils vont dans le privé, ils leur donnent plus d'argent, il fait bon dans des meilleures conditions. Donc les aides-soignants, je les comprends pour ceux qui vont dans le privé. Et pour les personnes qui ont les moyens de mieux se soigner dans des meilleurs établissements, j'en suis sûr qu'ils préfèrent des hôpitaux ou des cliniques privées que des hôpitaux publics qui sont bondés, sans prime, avec
Je connais pas une personne.
Alors,
qui a un
je voudrais qu'on écoute.
Étienne, ne me dis pas. Une grave maladie qui va dans une clinique.
Parce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, vous avez 30% de PH en moins, de praticiens hospitaliers.
C'est incroyable.
On a perdu. Qu'est-ce qui se passe maintenant les accords cliniques, c'est-à-dire hôpitaux maintenant qui sont devenus privés, hôpitaux publics, pour que les cancéros ils se les partagent et ils vont maintenant et c'est les mêmes souvent qui font une vacation à l'hôpital et une vacation en clinique. Je te dis aujourd'hui.
Alors, qui font les deux, qui font.
Oui, privé, c'est, oui, oui. Et voilà.
On va revenir à la chaleur.
C'est,
et écoutez,
c'est Étienne comme d'habitude.
Bah oui. Mais qui veut le prendre
c'est la chaleur, vous savez.
Ouais. Et je mets un billet. Je mets un billet de 50 euros si on est récupéré.
Je maintiens. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute de Necker, par exemple.
Mais je ne dis pas que Necker n'est pas. Mais non.
On n'est pas en train de dire.
On te parle de tous les services.
On n'est pas en train de te dire. Tout le monde ne fait pas une généralité. Étienne, on te dit ceux qui ont les moyens. Écoute.
C'est pas qu'une question d'argent.
Même pas une question de moyens.
Je suis pas. C'est dégueulasse.
Attends, Joël. Écoute Jean-Baptiste.
Ça dépend du médecin que parce que quelquefois. Tu vas voir un médecin,
suis, par exemple. Voilà. Et tu as un bon feeling avec le médecin.
Gynécologue.
Exactement. Et tu as envie de continuer.
Mais bien sûr.
Et ben, il m'a orienté vers sa clinique privée.
Exactement.
C'était à Neuilly. Et ben, j'y suis allée. Ça a été pris en charge par la sécurité sociale, plus la mutuelle. Et c'était une clinique privée. Et j'ai été très bien soignée. Mais effectivement, il y a des cliniques privées, c'est aussi du caca. Hein.
Jean-Baptiste est avec nous. Jean-Baptiste, il est professeur, il est enseignant en Charente-Maritime. Bonjour, Jean-Baptiste.
Oui, bonjour à tous.
On voit bien que la chaleur nous amène à élargir tous les débats. Et est-ce que aujourd'hui, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes habitué à la chaleur ou pas?
Bah, écoutez, ça devient assez compliqué dans le sens où les vagues de chaleur sont parfois précoces. Hein, elles commencent maintenant, parfois mai. Elles s'étalent jusqu'à mi-septembre, voire fin septembre dans certaines régions. Et en l'occurrence, dans les établissements scolaires, ça devient parfois intenable. D'autant plus, et c'est là peut-être aussi mon coup de gueule, c'est que le ministère ne nous aide pas du tout à lutter contre ça. On se retrouve dans des classes surchargées, parfois avec 30 élèves dans des pièces.
C'est ça, Jean-Baptiste. Excusez-moi de vous couper. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi je vous coupe. C'est exactement, Jean-Baptiste, et exactement dans l'éducation nationale, ce que l'aide-soignante Sonia était dans le ministère de la Santé. Ça veut dire qu'ils sont en manque de moyens. ils sont en ils ont trop de personnes qui sont sous leur responsabilité, trop de patients d'un côté pour Sonia, trop d'enfants pour Jean-Baptiste. Il fait chaud, ils ont pas de moyens techniques justement pour et des bas salaires. Oui. C'est normal, Jean-Baptiste. Si demain, et je vous pose une question très sincère, si demain on vous propose le même métier dans du privé, est-ce que vous y allez? Non. Oui ou non?
Bah écoutez,
avec un meilleur salaire, bien évidemment, hein, c'est ce qui est de ce qui
ouais,
est
normal. Ouais, après, je sais pas si forcément l'herbe
est plus verte ailleurs.
Ouais, je suis pas sûr que honnêtement, on se retrouve avec des conditions optimales dans le privé. Enfin, je veux dire.
Est-ce qu'il faut climatiser les classes?
Est-ce que voilà, je pense que dans le privé, quand c'est des écoles privées, les classes sont
climatisées. Est-ce qu'il faut climatiser les classes, Jean-Baptiste?
Je ne pense pas qu'on doit aller vers ce genre de système. Par contre, que le ministère nous aide pour le minimum, c'est-à-dire prévoir lorsque des vagues de chaleur arrivent, c'est-à-dire que maintenant, avec Météo-France, on le sait depuis pratiquement une semaine avant, c'est-à-dire que le ministère pourrait déployer en fait des bouteilles d'eau pour les enfants. On pourrait avoir des ventilateurs dans les salles un minimum, c'est-à-dire que comme les fenêtres sont sécurisées, on a des petits courants d'air, mais je dis bien des tout petits courants d'air dans les salles, c'est pas suffisant.
Mais Jean-Baptiste, il y a une chose qui est amusante et paradoxale, mais c'est comme ça que fonctionne le monde, c'est-à-dire ce sont des cycles. On remet, je voyais là un reportage sur BFM Nice Côte d'Azur, on replante des arbres dans les cours d'école.
Oui.
Tu vois, moi, on les avait les arbres, parce que je me souviens, si tu veux, on jouait à cache-cache derrière. On s'en servait même au pied des racines des arbres. Il y avait des petits trous, et puis on jouait aux billes. Tu vois, ce qu'on appelle, nous, à Nice, on jouait à la pigne. Mais tu sais pourquoi on les enlevait? Parce qu'il y avait des accidents. Pour des questions de sécurité. Et donc là, maintenant, on remet les arbres. On va remettre des mûriers, on va remettre des platanes dans les cours d'école. Alors, ça, je sais pas, parce que ça, c'est de la responsabilité des maires.
Alors,
ouais,
j'entends bien. Les écoles, en fait, c'est à nous, d'assurer les ventilateurs, les capteurs de CO2, tout ça. Tout ça, c'est domaine du maire. Le problème, c'est que si vous donnez pas plus d'argent aux maires pour gérer tout ça, ça s'appelle une dotation globale de fonctionnement, qui a encore diminué pour ma ville, d'accord? Parce qu'on parle de décentralisation, mais justement, il faudrait donner plus d'argent aux acteurs locaux. On a de moins en moins d'argent, les maires. Bien sûr, sinon on mettrait des ventilateurs, mais sur les capteurs de CO2.
On mettrait des arbres pour de l'ombre, dans les cours d'école.
On ferait tout. Mais à un moment, si vous décentralisez pas les moyens financiers aux acteurs locaux qui sont les maires et qui voient leur école en responsabilité, vous ne pourrez rien faire. Et vous verrez, si on parle un jour de la police municipale, c'est pareil. On n'a jamais d'argent en plus, mais de l'argent en moins. Et on en met de plus en plus de choses parce que le citoyen vient nous voir. Les parents viennent voir le maire. Ils vont pas aller voir le ministre.
Ouais, mon fils, il a trop chaud à l'école.
Mais voilà, c'est de votre faute. Bah non, j'ai pas un euro pour le mettre, pour changer un rideau.
Jean-Baptiste, merci d'avoir été avec nous. Chaleur, va-t-on s'y habituer? C'est la question qu'on vous a posée. On va regarder quel est votre ressenti en ce moment. C'est un oui quand même, on est dans l'acceptation. Finalement, on a compris ce qui était en train de se passer et qu'il fallait s'y habituer à 64%. Dans un instant, le monde de Macron 2 avec l'explosion hier à Bergerac. Ça nous remontre la carte des usines Seveso en France. Et puis, on parlera du blocage de la prison d'Arles.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Étienne Yevig, éducateur en Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec Mehdi Guézard, chef d'entreprise à Paris, Joël Dagosséry, coach de vie. Ludovic Toro est avec nous, le maire de Coubron en Seine-Saint-Denis, et il est médecin généraliste. Tiens, on parle à l'instant de la chaleur, des conditions de travail à l'hôpital avec Sonia. Petite pensée aussi pour les camarades, ceux qui sont aujourd'hui polyhandicapés, qui sont dans les maisons d'accueil spécialisées aussi, qu'on appelle les masses, et qui ont déjà une vie difficile de par leur handicap et qui sont dans des conditions encore plus compliquées. Et je pense notamment à Sébastien Proyard avec l'association Média Handicap, et puis Johan, Lisa, Aïché, Joël, Mika qui souffrent au quotidien mais sont des vrais battants. Il faut penser à toutes ces populations, il faut penser à eux, et aujourd'hui dans les GG on pense bien à eux. On y va pour le monde de Macron 2.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
À Bergerac hier, on en a beaucoup parlé, Bergerac, on a 8 personnes ont tué dans un état critique qui ont été blessées par des explosions sur la poudrerie Urenco qui est classée Seveso seuil haut. En fait, c'est la nitrocellulose pour munitions qui a été contenue dans l'atelier qui a explosé lors d'opérations de maintenance. Du coup, Bon, fort heureusement, ça aurait pu être beaucoup pire, parce qu'il y avait moins de stockage de nitrocellulose, il y avait une activité avec l'été qui était un peu au ralenti. Mais du coup, on a ressorti la carte de France, vous savez, des sites Céveso et des compenses Céveso. C'est vrai qu'on pense à ZF à Toulouse, ou Lubrizol à Rouen, et on a 1300 sites, dont 700 qui sont classés comme étant à haut risque. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, j'écoutais ce que disaient certains habitants. Oui, la poudrerie à Bergerac, c'est une usine qui est là depuis longtemps. Dans les années 80, il y a eu un incendie, mais en fait, on s'est habitué à vivre avec ces sites. Alors, je sais pas si un jour il faudra de nouveau les cartographier, les répertorier, les bouger, les changer. Tu vois. Bien sûr, c'est très compliqué, ouais, mais tu reprends quand il y a des événements comme ça, tu reprends conscience du danger qui est à côté de chez toi, quoi.
Ouais, mais c'est des installations, comment dire, industrielles dangereuses. Elles sont, voilà, on les a citées. C'est depuis Céveso en Italie. Je sais pas si vous vous rappelez, où il y avait eu du dioxine qui était parti, qui avait tout cramé, et les gens avaient des. Donc l'Europe a décidé de mettre Céveso 1, Céveso 2, Céveso 3. Ça me paraît normal, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'industrie en France. Moins vous avez de Céveso, moins il y a d'industrie. C'est un signe aussi de prolifération d'industrie. Donc, on ne peut pas supprimer les Céveso. En effet, il faut les contrôler. Mais là, voilà, tout a été fait. Maintenant, on va voir. Ils disent qu'il n'y a aucune pollution. C'est monté en vertical et ce n'était pas du gaz toxique. Voilà. Mais on ne peut pas remettre en question Céveso et surtout pas l'industrialisation de la France qu'on demande tous.
Ouais, mais sauf que.
C'est à la limite, je dirais que le problème est exactement le même pour. C'est le même problème que pour le nucléaire. Hein, à la limite, je dirais. Soit on accepte de dire, bon, voilà. On a du nucléaire en France et on le développe et c'est une énergie qui est propre et on accepte les risques que ça suppose parce qu'il n'y a pas, il n'y a jamais risque zéro, jamais, jamais. Il peut y avoir un accident, il y en a déjà eu, il peut y en avoir d'autres et il y en aura peut-être. On l'accepte et on l'accepte dans la mesure où tout a été mis en place sur le plan sécurité pour assurer. Et là,
on l'accepte parce qu'il y a un blessé grave et quelques blessés légers.
Oui, bien sûr.
Tu vois, parce que
mais aussi parce que
au moment d'AZF, au moment du Brizol, on disait,
Alain, on l'accepte parce qu'on est dans un pays où, malgré ce que l'on dit très souvent, on se dit que le travail est bien fait par rapport au risque et on a confiance à la fois dans les fonctionnaires qui contrôlent ces sites et à la fois dans les sociétés qui les gèrent. Je pense qu'il y a une espèce de confiance en se disant qu'on n'est pas dans un pays totalement corrompu où les gens vont construire n'importe quoi, faire
comme
n'importe quoi.
Comme au Liban,
quoi.
Par exemple.
Au Liban, par exemple, ou d'autres pays où on pourrait douter de la. Là, on se dit quand même si après 3 ans, on nous dit ouais, ben on a laissé passer une fissure parce que nanana. En réalité, on voit bien que grosso modo, on est dans un pays qui tient la route sur le plan du contrôle sécurité.
Mmh. Joël ?
Non, mais je pense que c'est un accident, à moins qu'on nous prouve le contraire.
C'est ce que devra dire l'enquête.
Voilà, après enquête, possiblement, donc, c'est un accident. Mais on accepte, comme le dit Étienne, on accepte qu'il y ait certains risques, mais on se sent quand même plus en confiance. Enfin, moi, je ne me sens pas particulièrement en danger parce qu'il y a ce type d'usine sur le territoire.
Mehdi aussi ?
Non, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a encore des sites Céveso qui sont plus ou moins proche de la population. Et c'est pour moi le grand danger, il est là. C'est pourquoi justement ne pas sortir. Alors je dis pas qu'on va changer, la cartographie complète des sites, mais tous ceux qui sont plus ou moins proches de milieux de population, c'est ceux-là qu'il faudrait changer, c'est ceux-là qu'il faudrait déplacer, c'est ceux-là qu'il faudrait mettre en zone industrielle à risque. On a des zones industrielles commerciales, des IIC. On pourrait faire des IIR, des zones industrielles à risque, où tu ne mets que des choses comme ça, où il n'y a aucune population tout aux alentours. Et déjà, alors, tu ne régleras pas le problème, puisque des accidents, il y en a, il y en aura toujours. Mais déjà, tu bloques le problème sur le côté où tu te dis, il n'y aura pas de population civile, il n'y aura pas de gens comme ça qui... Et je pense, et c'est mon humble avis, que c'est la seule solution plausible actuellement. C'est aussi, puisqu'on ne va pas pouvoir c'est pas possible de tout désinstaller et il n'y a pas de recette miracle. Quoi.
On en revient à la même chose, la décentralisation. C'est-à-dire c'est que plus on va concentrer les choses, plus les problèmes
vont arriver. Mais tu as vu que les gens refusent. Hein, tu as vu que c'est pas si évident. Enfin, par exemple, aujourd'hui, on a le problème de savoir où mettre les déchets nucléaires et que pour l'instant, tous les villages et villes, et pourtant ça rapporte beaucoup de pognon à qui on le propose, et je pense à Bure en particulier, pour l'instant, les populations se sont levées et ce ne sont pas des gauchistes malfaisants, se sont levées en disant nous, mettez-les ailleurs vos déchets nucléaires. Alors. Donc, c'est très facile de dire ça. En même temps, là, on en parlait juste avant, la pensée collective est une pensée qui n'est pas tellement inscrite dans notre ADN. humaine. Donc le bien collectif et le bien commun passent après notre bien individuel. On continue de remplir sa piscine, même si on sait qu'on risque de crever de soif. Donc, eh ben, de la même manière, on est d'accord pour le nucléaire, mais on veut pas les déchets. Tu vois, il y a, c'est pas si simple que ça à gérer cette petite question.
Le mieux, c'est Ludovic, pour éviter la désinformation. Le problème, on a le nucléaire, ça fait peur à tout le monde. Il faut juste expliquer aux gens. Maintenant, Bure-sur-Yvette, c'est quand même un village.
C'est pas Bure-sur-Yvette, c'était Bure, c'est une autre Bure.
À l'autre Bure. Mais de toute façon, on va pas mettre ça chez les gens. Il faut trouver d'autres endroits où les mettre, tout simplement. On peut le faire. Il y a des endroits en France où il n'y a aucune habitation. On pourrait
ça appartient toujours à un village.
Oui, mais des endroits où il y a beaucoup plus d'habitants que d'autres. Donc, faut voir. Maintenant, je reviens sur l'explosion.
Oui, mais en même temps, ces sites de déchets, il y a aussi des gens qui les entretiennent. Donc, il faut qu'il y ait un bassin de vie. Si tu veux quand même à côté, tu peux pas.
Il faut les transports pour pouvoir accéder. Mais là, dans ce cas-là, c'est la nitrocellulose, d'accord? Je vous rappelle quand même qu'on est, qui sert à faire de l'armement. Et on a une balance économique qui, si on n'avait pas l'armement, on serait très, très mal.
C'est à la fois militaire et civil, hein.
Oui,
on les utilise aussi pour les cartouches des airbags.
Oui, tout à fait.
Et des airbags aussi. Donc, tu vois. Dans le monde de Macron, on a aussi le blocage de la prison d'Arles qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Ce blocage de la prison d'Arles qui est un mouvement de protestation parce que c'est à Arles. Vous vous souvenez que Yvan Colonna a été assassiné. On a pointé du doigt la responsabilité d'un surveillant. Et donc, les syndicats disent que ce n'est pas possible. On en fait un bouc émissaire. Écoutez.
Le seul bouc émissaire in fine de cette enquête est un simple surveillant en bas de l'échelle. Nous dénonçons ce fait. Il est à l'heure actuellement inadmissible que l'administration pénitentiaire se décharge ainsi sur un personnel, alors que bien d'autres sont responsables tout autant, si ce n'est plus.
Alors c'est intéressant, parce qu'en fait, on est dans un pays où, on sait les problèmes qu'il y a dans l'administration pénitentiaire, dans la gestion humaine, mais on refuse en fait de pointer du doigt une responsabilité individuelle. Rappelons qu'Yvan Colonna, il a été étranglé durant 9 minutes. La scène de l'assassinat dure 9 minutes et qu'il y avait quand même un problème avec la manière dont ce surveillant, celui dont il est question, a géré ce moment. Et le syndicat dit non, c'est le bouc émissaire, c'est tout l'ensemble de la chaîne qu'il faut revoir, tout le système, Joël Dagossier. Donc, en fait, on refuse aujourd'hui la responsabilité individuelle.
Bah, écoute, je suis assez partagée. Je suis d'accord qu'il faut chercher qui est le responsable direct, celui qui était sur les lieux, celui qui était censé surveiller ses détenus. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un peu léger d'avoir juste ça dans le rapport. Alors, je n'ai pas lu, hein. Mais si c'est juste ça, la conclusion...
Non, la direction de l'administration est pointée du doigt aussi dans le rapport.
Il faut monter plus haut quand même, parce que les frisons français, c'est un vrai scandale. Enfin, il y a un moment où...
Oui, mais tu vois, dans la même attitude.
Non, je ne suis pas dans la même attitude, je crois.
Puisque là, on parle de la mort d'un homme qui a été assassiné à l'instant T, on regarde les responsabilités à l'instant T.
Oui, mais il y a un moment quand toute la chaîne est pourrie, tu sais, à la fin, tu arrives à ce genre de résultat. Et donc, si tu veux régler un vrai problème, bien sûr, tu peux responsabiliser quelqu'un et lui dire c'est de ta faute.
Là, y a-t-il eu une faute au moment où Yvan Colonna a été assassiné?
Oui, tu peux pointer la faute, mais tu peux aussi réfléchir à tout ce qui a entraîné ce genre d'acte. Et je suis désolée, les prisons françaises, c'est un vrai scandale. Le fait de travailler dans des conditions pareilles, c'est un vrai scandale. Pas de moyens, pas assez de surveillants, trop de détenus. Enfin, là,
tu
on parle de
dans les oreilles et les autres orifices pour pas que les cafards rentrent dedans.
Quand on parle de canicule, va voir comment là ils sont en train de souffrir dans les prisons, les surveillants et les détenus. Donc tout ça mélangé, je suis désolée. Il y a un moment, il y arrive une catastrophe. Donc oui, à la responsabilité individuelle, c'est très important, mais non à la seule responsabilité individuelle quand tout le système est pourri jusqu'à la moelle.
D'autant que, enfin, il y a autre chose aussi, c'est que le responsable de ce meurtre, c'est le type qui a tué Yvan Colonna.
Déjà.
Le responsable.
Comment c'est déjà bien.
C'est lui. C'est ce type islamiste en plus, je crois, et qui a agressé. J'ai l'impression que ça, c'est la première chose. Ensuite, on ne pourra pas éviter. Le deuxième truc, c'est qu'on ne pourra pas éviter dans le milieu carcéral cette espèce de hyper-violence parce que on n'est pas fait pour vivre comme des animaux dans un lieu fermé. On n'est pas fait pour vivre à trois dans un cachot fermé où il y a un chiotte dégueulasse. On n'est pas fait pour ça. Donc automatiquement, la montée. Je lisais les rapports de l'observatoire. Je rappelle des prisons. On se met des papiers dans les orifices pour pas être pénétré par les cafards. Je veux bien que cette vengeance sociale de la haine qu'on a contre les prisonniers fait que finalement on se dit c'est bien fait pour leur gueule. Sauf que faut savoir que tout le monde ici d'entre nous peut se retrouver au trou.
Mais tu vois,
on n'a pas besoin de tuer quelqu'un.
Je vous parlais simplement de ce mouvement de grève est-il justifié alors qu'il y a eu une commission d'enquête qui pointe du doigt
la responsabilité
d'un justifié. Homme.
Alors, de toute façon, tu as raison. S'il avait voulu le tuer, il aurait trouvé un moyen pour le tuer. En prison, on peut tuer quelqu'un. Maintenant, on a été condamné la France il y a 2 ans par la Cour européenne des droits de l'homme et là, le nouveau rapport vient d'arriver au mois de mai. Nouveau rapport, il est pire encore. On a une occupation de 140%. Ouais. 140%. Moi, je voudrais... Ok, on a tapé sur l'ex-directrice et lui. Mais au-dessus, Dupond-Moretti va me répondre pourquoi c'est dans ça. Mais le chef, c'est lui. C'est le chef qui doit... Je veux une enquête pour savoir s'il y avait...
Il est responsable de l'état des prisons, là, en l'occurrence.
Non, mais je veux...
Mais les gardes des Sceaux.
Je veux savoir si, à ce moment-là aussi, s'il y avait un nombre de surveillants par rapport au nombre. S'il y avait une surpopulation, ça donne de la tension aussi pour les surveillants, à 140%. Bah, combien cette prison était en surpopulation? Si elle était à moins de 100, il n'y a pas de problème. Mais à plus de 100, ça remet en question pas seulement ces gens-là, mais les gens qui envoient les gens en prison à cet endroit-là. En fait. C'est-à-dire que quand vous êtes à plus de 140%, quand vous n'avez pas assez de surveillants, évidemment que ça lâche à un moment et ça se fissure. Voilà.
On a des prisons à 200% de taux d'occupation. Enfin, à un moment, tu ne peux pas décemment te dire que ça va fonctionner.
Correctement
ben
ton
oui,
travail.
C'est pas possible. Mehdi.
En fait, ce qui est même très dérangeant dans cette histoire, c'est les personnes qui étaient impliquées dans l'histoire. Donc, Yvan Colonna et un fichier S.
Oui. D'accord.
Et que, en fait, d'après moi, la chose qui fait scandale, c'est comment deux personnes, excusez-moi, mais de cet acabit-là, de ce pédigré, on va dire, en quelque sorte, de ce palmarès, entre guillemets, peuvent rester 9 minutes ensemble, sans surveillant. Et c'est là où est tout le problème.
Bah c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a montré l'enquête.
Il y a eu un défaut de surveillance de la personne qui était en charge à ce moment-là. Joël, je ne te dis pas comme quoi c'est la personne toute seule qui est responsable, parce qu'il a une hiérarchie, il a des responsables. Le type peut aller, je vous dis une connerie, il peut être malade, il peut avoir mal au ventre, il peut aller aux toilettes. Et il peut... Mais le problème, c'est que comment deux personnes comme ça, aussi dangereuses, ou considérées comme des personnes dangereuses, peuvent être toutes seules.
Il faut savoir, une prison, ça fonctionne en protocole.
Et c'est ça qui est dangereux.
Je vais souvent faire des cours en prison. Tout est protocolé. C'est-à-dire que le temps d'ouverture de la grille, le moment où tu passes, les cartes, la carte avec... Tout est protocolé. Donc, à un moment, c'est que le protocole n'a pas été respecté. Bien sûr, on est d'accord.
On est d'accord, mais ce n'est pas la peine de mettre à une personne individuelle, justement, toute la responsabilité de ce manquement.
C'est comme un avion.
C'est ça.
Voilà, allez, dans un instant, avec nos GG Mehdi Guézard, Ludo Victor, Joël Dagosséry et Étienne Liebig, la grande interview accordée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ça va être l'homme de l'été, le ministre de l'Intérieur. Il annonce le report du projet de loi sur l'immigration, mais il veut un grand débat sur l'immigration à la rentrée. Gérald Darmanin, parce que dit-il aujourd'hui, il faut prendre les choses en main. Il annonce un certain nombre de mesures. Alors, un grand débat sur l'immigration, est-ce que c'est utile, enfin, ou des magots? 32-16 pour venir en parler avec les GG.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.